VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, les dirigeants d'opposition comptent transmettre aujourd'hui au président Denis Sassou Nguesso les conclusions de leur dialogue alternatif qui a pris fin mardi, à savoir un appel au chef de l'État lui demandant de ne pas convoquer un référendum pour changer la constitution. Des précisions avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Après 3 jours de concertation, les opposants gardent de ces travaux une seule ligne directrice, le non-changement de la Constitution. Gilda Mounsara, participante et porte-parole de la plateforme qui lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel.
Ça a été pour nous l'occasion de réitérer notre position, de dire que nous sommes contre le changement de la Constitution, simplement parce que ça va à l'encontre des dispositions de la Constitution du 20 janvier 2002. Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour le respect des principes de la démocratie et donc normalement la limitation du nombre de mandats. Et nous voulons dire au président de la République que la Constitution qui régit notre pays, qui fait de lui président de la République, ne lui donne pas l'initiative de convoquer un référendum.
Romain Kinfoussia, président de l'UDR Mouina et doyen d'âge du présidium de ce dialogue, n'a qu'une seule parole à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso.
Il a intérêt à nous réserver une bonne suite. Sinon, il sera rattrapé par tous ceux, des gens qui ont le discernement et le sens de l'État pour lui recommander nos recommandations. À l'opposé des conclusions qui sont sorties de CBT, dont M. Sassou devra faire un tri en fonction de ses intérêts. Et nous connaissons ses intérêts. Il a profité de ce hiatus de CBT pour justifier d'un manque de consensus et recourir à ce qu'il appelle un référendum. Or, il n'en a pas le droit.
Les jeunes, venus nombreux à ce dialogue alternatif, appellent à l'alternance politique.
L'acte que veut poser le président de la République consiste à conserver le pouvoir et ça emprisonne notre démocratie. Voilà pourquoi nous sommes là, pour lutter pour la libération de la démocratie.
La moisson ainsi obtenue sera transmise au président Denis Sassou Nguesso pour qu'il en tire la conséquence. René Serge Blanchard-Aubin, porte-parole de ce dialogue alternatif, précise le mécanisme choisi par l'opposition.
Nous ne contestons pas l'existence de l'État ni l'autorité des pouvoirs. Ah non, pas question. Nos résultats, nous les transmettrons au président de la République via, nous avons un ministère qui s'occupe des partis politiques, via ce ministère, nous transmettrons les résultats à monsieur le président de la République.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Gabon, 12 milliards de francs CFA, le montant que le gouvernement va désormais verser chaque mois aux 90 000 agents du secteur public. La mesure fait partie d'un train de réforme des salaires décidé par le président Ali Bongo Ondimba. Le salaire moyen de fonctionnaires gabonais de la plus basse catégorie passe de 80 000 à 150 000 francs CFA. Plus de détails avec notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Avec un salaire de base avoisinant de 200 000 francs CFA par mois, Sylvestre Sengue fait partie des 90 000 fonctionnaires qui ont bénéficié depuis la semaine dernière d'une augmentation de salaire de 30%.
J'ai été au guichet cette fin de mois et nous avons constaté une légère augmentation. Est-ce que cela satisfait réellement les attentes des Gabonais? Dans la mesure où le bailleur là-bas va augmenter son loyer et les prix des produits alimentaires vont également être augmentés, on attendait beaucoup. Mais bien que ça, il y a eu une légère augmentation. Certainement, ils vont revoir ça après.
La réforme des salaires est en débat depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo, qui souhaitait assurer un revenu suffisant aux fonctionnaires. Pour Jean-Marie Ogandanga, le ministre de la fonction publique, ce système répond, je cite, à une nécessité impérieuse.
Lorsqu'il dit qu'il veut une fonction plus équitable, c'est qu'il savait qu'il y avait une iniquité quelque part. Or, lui, c'est un président de tout le monde qui veut que tout le monde trouve son compte à travers son travail.
Son collègue du budget, Christian Magnagnan, s'est tacté d'avoir réalisé un pari.
On traduit ici la haute instruction du chef de l'État qui veut que les Gabonais, évidemment, se sentent mieux, que les Gabonais soient heureux, notamment les fonctionnaires.
L'ancien régime de paye, vieux de 40 ans, est la cause des nombreuses contestations dans ce pays d'Afrique centrale où, selon la Banque mondiale, 33% des 1 800 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Cette année, la masse salariale sera plafonnée à 624 milliards de francs CFA et profitera à 90 000 agents de l'État contre 480 milliards de francs CFA l'année dernière. Certains observateurs considèrent déjà qu'il s'agit d'un message adressé aux Gabonais en prévision de l'élection présidentielle de 2016. Faux, répond un proche d'Ali Bongo contacté par VOA Afrique. Alors que la réforme fait l'objet d'un projet de loi qui sera présenté au Parlement dans les tout prochains jours, les syndicats, eux, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burundi, le parti au pouvoir CNDD-FDD demande à la communauté est-africaine, médiateur dans la crise politique qui secoue le pays, de comprendre le besoin d'amender la constitution burundaise pour permettre la formation d'un gouvernement d'union nationale. En raison du boycottage des récentes élections par l'opposition, seul le CNDD-FDD a obtenu les plus de 5% des sièges requis au Parlement pour faire partie d'un tel gouvernement. Plus de précision avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Pour le président du parti CNDD-FDD, Pascal Nyabenda, le respect des principes de démocratie, de liberté, de transparence et d'élections inclusives doit être le leitmotiv de tous les acteurs politiques burundais. Dans ce message envoyé aux pays de la communauté est-africaine, la communauté internationale devait aider le Burundi dans sa quête vers la recherche de liberté en acceptant que la constitution soit amendée pour que même la coalition Amizero ya Barundi puisse participer au futur gouvernement de l'Union nationale. Le porte-parole du parti présidentiel, Gelaz Ndabirabe.
Parler de gouvernement d'union nationale sans changer la constitution, ce n'est pas possible. Mais comme nous avons déjà dit, la communauté des pays d'Afrique de l'Est pourrait aider en ce sens pour débloquer cette question. Au cas où, par exemple, elle ne répondrait pas favorablement, peut-être donc on va envisager d'autres possibilités, mais tout cela donc devra se passer à l'intérieur donc de l'hémicycle pour s'entendre donc comment les choses vont se passer.
Mais pour les autres formations de l'opposition, l'urgence n'est pas à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais plutôt des élections crédibles où tout un chacun se reconnaît, le sénateur Emmanuel Ngengurutse.
Il n'appartient pas à la communauté est-africaine de demander la constitution d'un pays souverain qu'est le Burundi. Même si nous sommes à l'intégration régionale, ce n'est pas une union politique. Ce n'est pas encore ça. Donc, il appartient au Burundi même, comme ils l'ont fait auparavant, de pouvoir mettre en place une nouvelle constitution conforme aux intérêts de tout le monde. Pour pouvoir l'obtenir, il faut qu'on réorganise des élections libres, apaisées, inclusives, pour pouvoir aboutir à un gouvernement démocratique qui, par définition, conformément à notre constitution, est un gouvernement d'union nationale.
Les partis politiques de l'opposition avaient boycotté toutes les élections communales, législatives et présidentielles. Ils affirment que les accords d'Arusha et la constitution ont été violés par ceux-là même qui devaient faire respecter ces textes fondamentaux. Les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine demandent urgemment la reprise du dialogue pour résoudre toutes les questions qui ont été mises à la table lors du début de dialogue amorcé par le président ougandais Yoweri Museveni. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour la Voix de l'Amérique.
Au Cameroun, deuxième jour de la visite du président nigérian Muhammadu Buhari. Quels sont les objectifs du nouveau leader du Nigeria? Écoutons l'analyse du professeur Eric Mathias Owanangini de l'université Yaoundé 2.
Il s'agit pour le nouveau leader nigérian de discuter directement avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, de manière à évaluer l'ensemble des relations Cameroun-Nigéria. Bien entendu, l'un des points intéressants qui sera particulièrement suivi est ce que les deux chefs d'État vont dire de leur vision de la crise sécuritaire attachée à l'action de Boko Haram dans le contour du lac Tchad et de la manière dont les deux pays associés au Tchad et au Niger pourraient coopérer pour lutter contre ce phénomène d'insécurité.
Le professeur Eric Mathias Owanangini de l'université Yaoundé 2. Et puis les États-Unis, ou plutôt les Nations Unies, ont revu à la hausse leurs projections d'augmentation de la population mondiale. Selon un rapport publié hier, la planète comptera plus de 11 milliards d'habitants en 2100. Camille Grosdidier.
Il y a seulement 25 ans, en 1990, la Terre ne comptait que 5,3 milliards d'êtres humains. Ils sont aujourd'hui 7,3 milliards et seront 11,2 milliards en 2100, affirme le rapport sur les perspectives d'évolution de la population mondiale de l'ONU. Fait marquant, un petit nombre de pays, surtout en Afrique et en Asie, seront responsables de la croissance démographique d'ici le milieu du siècle. Entre 2015 et 2050, la moitié de la hausse de la population mondiale sera concentrée dans 9 pays. Inde, Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, Tanzanie, États-Unis, Indonésie et Ouganda. D'ici à la moitié du siècle, 6 pays vont dépasser les 300 millions d'habitants: Chine, Inde, Indonésie, Nigeria, Pakistan et États-Unis.
Et pour terminer, le Premier ministre malaisien Najib Razak a déclaré aujourd'hui que le débris d'avion découvert cette semaine à La Réunion dans l'océan Indien venait probablement d'un Boeing 777. Mais à son avis, il reste encore à vérifier si ce fragment d'aile provient du vol MH370 de Malaysian Airlines qui a disparu le 8 mars 2014 dans l'océan Indien.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.